Ouais, le chercheur oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Boumati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux techniques de maîtrise du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce premier numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine à l'issue de l'opération de recouvrement forcé de l'impôt et de scellé de maisons commerciales effectuée la semaine dernière. La Direction Générale des Impôts, antenne du Katanga, a enregistré un manque à gagner de plus de 10 milliards de francs congolais de ses contribuables. Cette affaire relance donc les débats sur le mécanisme de recouvrement de l'impôt et autres redevances dues au trésor public en République démocratique du Congo. Quel pourrait être pour vous le mécanisme efficace pouvant réduire sensiblement un tel manque à gagner? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre participation en direct. Nous avons Willem Lungamba qui assure la mise en onde de ce programme réalisé par Gili Feza Bongonda et Piro et la Mégie, un programme coordonné et présenté par JR Lungebo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungebo.
Nous avons dans ce studio le plaisir donc de vous présenter Monsieur Roger Mbambou Munoki, qui est le chef de division et receveur principal à la DGE, Direction des Grandes Entreprises à la DGI. Monsieur Roger, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce qu'on peut, dire que la situation qui prévoit actuellement au Katanga, c'est une situation normale?
Eh bien, c'est une situation tout à fait normale dans la mesure où, comme vous voulez que je puisse le rappeler, le paiement de l'impôt doit se faire spontanément. C'est-à-dire nous sommes dans un système déclaratif où la déclaration est auto-liquidative, c'est-à-dire que c'est le contribuable lui-même qui déclare l'impôt et qui le paye. Il le paye avant de se présenter au niveau de l'administration fiscale pour souffrir sa déclaration. Et à cette occasion, si le contribuable n'a pas procédé à une déclaration sincère, ou s'il a omis de pouvoir déclarer, l'administration fiscale a le pouvoir de pouvoir restituer les bases qui sont tout à fait imposables. Et donc, ça voulait dire que le contribuable établit l'impôt, mais l'administration fiscale également établit l'impôt. Et c'est à cette occasion, si le contribuable, dans les délais que la loi fixe, ne paye pas l'impôt, l'administration intervient pour ce qu'on appelle un recouvrement forcé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une phase amiable où il y a le paiement volontaire et une phase où, lorsque le contribuable ne s'est pas acquitté de son obligation, il y a l'intervention de l'administration pour le paiement forcé.
Mais un manque à gagner, peut-on parler d'un manque à gagner, d'un déficit ou un solde débiteur recouvrable?
En fait, on parle de solde débiteur. Ça veut dire quoi? Que le contribuable se trouve au niveau de l'administration des impôts dans ce qu'on appelle un compte courant fiscal. Donc, chaque fois qu'il souscrit sa déclaration, le montant est inscrit dans le compte courant fiscal et dès qu'il paye, on procède à ce qu'on appelle l'apurement, c'est-à-dire qu'on inscrit qu'il y a eu paiement et la ligne s'efface automatiquement. Et si le contribuable a déclaré sans pouvoir payer, le montant reste et il reste dans son solde débiteur, tout comme il reste plutôt dans son compte courant fiscal et il constitue une dette, ce qu'on appelle le solde débiteur. La même chose, quand l'administration intervient, établit l'impôt, l'administration prend en charge l'impôt qu'elle a établi. Et pour prendre en charge, il y a l'émission de ce qu'on appelle l'avis de mise en recouvrement. Donc, dans la procédure d'établissement de l'impôt, quand l'administration vient pour établir, pour restituer les bases ou l'impôt exact à payer, l'administration donne d'abord ce qu'on appelle un avis de redressement ou un avis de taxation d'office. Ça dépend des cas. Donc, c'est l'avis de redressement. Si vous avez procédé à une déclaration que l'administration considère comme n'étant pas exhaustive et la taxation d'office si l'administration considère que soit vous n'avez pas procédé à la déclaration, soit qu'il y a des omissions telles que il faut une reconstitution d'office, et la taxation d'office.
Alors, je ne sais pas, parce que là, on a l'impression qu'il s'agit d'un solde cumulatif. Est-ce que cela ne peut-il pas avoir un impact sur les assignations?
En fait, il y a un impact sur l'assignation, mais le problème, il ne faut pas le présenter ainsi. Je le présente techniquement.
Parce que les auditeurs nous suivent, ils aimeraient bien se fixer, parce que si nous évitons de parler de manque à gagner ou déficit, on reste dans les termes solde débiteur, encore faut-il nous dire clairement où se situe la différence entre manque à gagner, déficit et solde débiteur. Mais la crainte, en tout cas bon nombre d'auditeurs redoutent que cela ait un impact négatif sur l'assignation.
Bien sûr, bon, l'auditeur qui redoute ainsi se trouve du côté de l'administration, n'est-ce pas? C'est pas le contribuable qui peut ainsi redouter, parce que pour lui, peut-être, c'est une situation qui est bonne de ne pas payer.
Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que cela a un impact?
Cela a un impact, parce que, en fait, ça amène l'administration à utiliser d'autres moyens pour pouvoir recouvrer l'impôt. Comme je vous ai dit, le paiement de l'impôt doit être volontaire et spontané. Et c'est ce qu'on appelle le civisme fiscal. C'est-à-dire que le contribuable lui-même, à l'échéance fixée, à l'échéance légale, déclare son impôt, il déclare correctement l'impôt et il le paye spontanément. Si le contribuable faillit à cette obligation, c'est en ce moment que l'administration intervient pour pouvoir le contraindre à pouvoir payer. Et ce montant qu'il n'a pas payé est inscrit comme une dette fiscale. C'est ce qu'on appelle le solde débiteur. Et ça constitue, en fait, puisque l'administration n'a pas gagné d'argent, voilà, ça constitue un manque à gagner pour l'administration.
Voilà. Alors, aujourd'hui, au niveau de du système fiscal de la RDC, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour, au fait, attester la véracité ou encore la véracité de la déclaration, au fait, des contribuables?
En fait, on parle de la sincérité de la déclaration.
Tout à fait.
En fait, la déclaration que souscrit le contribuable a une présomption de sincérité. Mais comme on le dit, cette présomption n'exclut pas le contrôle. Et l'administration a le pouvoir de contrôle. Et c'est pour cela que chaque année, il y a ce qu'on appelle le contrôle fiscal. Avant, ça s'exerçait sous forme de campagne. Mais maintenant, on peut soit procéder à des contrôles ponctuels pour des impôts particuliers, tout comme on peut procéder à un contrôle général. Mais la préférence est pour le contrôle général, pour que l'administration ne puisse pas revenir. Donc vous revenez pour contrôler l'IPR, donc l'impôt rattaché aux rémunérations, et puis vous revenez pour l'impôt attaché aux bénéfices, et puis vous revenez pour la TVA. Vous comprenez que toutes ces visites font que, au niveau de du contribuable, ça puisse paraître comme une tracasserie. Donc l'administration fait ce qu'on appelle le contrôle général. Et à cette occasion, c'est là où on vérifie la sincérité de la déclaration. Et pour restituer les bases exactes, l'administration dispose de plusieurs moyens. Parce que l'administration a ce qu'on appelle le droit de communication. C'est-à-dire, toutes les personnes qui détiennent une information qui peut permettre à l'administration de pouvoir reconstituer l'impôt sont obligés à donner à la requête de l'administration cette information. Il y en a qui le donnent automatiquement. Et sur base de ces éléments qu'on appelle des éléments de recoupement, c'est-à-dire l'administration rapproche la déclaration du contribuable d'avec les informations qu'elle possède, et elle peut restituer pour dire voilà la base exacte d'imposition et voilà les impositions, l'impôt exact que le contribuable pourrait payer.
Alors pour arriver à un tel solde très significatif de 10 milliards, y a-t-il pas une certaine complicité entre les percepteurs et les différentes sociétés?
Je ne sais pas le dire, parce qu'il faut analyser ce solde pour voir est-ce que là-dedans il n'y a pas des entreprises plus importantes.
Le principal, 10 milliards de francs congolais, quand même énorme.
En fait, en tant que receveur principal, je suis à la direction des grandes entreprises, dont nous ne parlons pas du solde des grandes entreprises, mais nous parlons du solde du Katanga, et je voudrais donner le principe en général, parce que il y a des contribuables qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Et ceux qui sont plus grands, qui ont un grand chiffre d'affaires, ils peuvent facilement se retrouver dans des redressements de l'ordre des milliards. Tandis que les autres, ce sont des petits. Donc, comment est constitué ce solde? Est-ce que c'est l'accumulation, le cumul des petits soldes de plusieurs entreprises? Parce que au moins au Katanga, surtout au CDI, ils ont à peu près 2500 à 3000 contribuables qu'ils gèrent. Et si vous prenez les autres structures qui sont les CIS, qui sont des structures qu'on appelle non réformées, il y en a encore autant, ça peut être 40 000 contribuables. Alors vous comprenez, ce solde-là, il faut l'analyser pour savoir qualitativement qu'est-ce qu'il représente.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Quel pourrait être pour vous le mécanisme efficace pouvant réduire sensiblement un tel manque à gagner au niveau de la fiscalité? Vous avez droit à la cité, donc composez ces numéros ou carrément nous envoyez, déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Nous ouvrons les standards avec vous, Maître Sonville. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur J.R. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les milliers et les millions d'auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez la parole, Maître Sonville.
Oui, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, elle est très pertinente. Je me peux faire d'abord au rendement des auditeurs que l'impôt, c'est un droit dû à l'État à travers la régie financière qui est autre que la Direction générale des impôts. Et c'est destiné au trésor public. Et cet impôt-là doit être payé par voie des avis de mise au recouvrement, qui sont classés en deux catégories, catégorie A et catégorie B. Et cet impôt-là doit se payer à 8 jours, à date de la réception. La réception de cet avis de mise à recouvrement. De passer ce délai, la DGI est dans l'obligation d'établir une contrainte sur le compte du courant fiscal. Et cette contrainte a un délai de 15 jours. De passer ces 15 jours, les autres de la DGI sont dans l'obligation de justice fiscaux, et dans l'obligation de passer au CELI et de la CELI. C'est tout à fait légal. Mais la question qui nous est posée, comment est-ce que ce recouvrement de ce CELI a causé un déficit de 10 à 12 milliards. Vous savez, M. J.R., il y a une crise de confiance pour aujourd'hui dans le chef de contribuables vis-à-vis de notre gouvernement. Pourquoi je dis ça? Il y a d'abord des situations à l'équilibre des politiques, à l'équilibre fiscal par les sociétés civiles. Puisqu'ils se sont rendus compte, quand les contribuables payent cet argent, quand les contribuables se décrivent à ce versement des impôts, il n'y a pas de rétrocession. Or, la rétrocession est tout à fait constitutionnelle. Alors, les entités ne se retrouvent pas. Même les provinces ne se retrouvent pas. Et même dans la Constitution, il dit que c'est pas le versement des impôts des taxes. Il faut que les provinces bénéficient de 40%. Et c'est 40% doit être retiré à la source. Ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'il y a une crise de confiance suite à l'incitation à l'incivisme. À cela, il s'ajoute aussi à l'incivisme aussi au climat d'ordre social et d'ordre politique. À cela, s'ajoute aussi l'absence de motivation des agences de la DGI. Les DGI ne sont pas motivés. Par exemple, dans les avis de mise au recouvrement de catégorie B, il y a une part qui est destinée à la trésorerie publique et une part qui est destinée à la DGI. Et lorsque ça va directement à Kinshasa, pour rétrocéder, c'est tout un problème. Mais ces agents-là ne se retrouvent pas. Toujours les agents de la DGI sont ceux-là qui deviennent ça des conseillers. Des conseillers des établissements pour cette magouille-là. Soit en changeant des nominations d'entreprise, des établissements, en déclarant une faillite. Or, au cas où ils déclaraient la faillite et qu'ils changent la nomination à la dénomination de cette entreprise-là, tous les impôts qu'ils donnent à l'État congolais tombent caduques. C'est un peu ça le problème, monsieur J.R. Alors, ce que doit faire notre gouvernement, c'est de faire un peu de conscientiser de passer à la conscientisation des contribuables, de motiver.
Maître Sauville, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, au propos, par exemple, des nombreux observateurs qui estiment que, c'est vrai, notre fiscalité est calquée à la manière de la fiscalité française aujourd'hui, qui est aussi très déclarative. Peut-être changer cela, trouver une autre option, ça pourrait peut-être aider à redorer l'image, à changer un peu l'image de notre fiscalité, parce que, c'est vrai, il y a plusieurs aspects. Il y a ce que nous appelons trop d'impôts qui tuent l'impôt. Voilà, il y a même un auditeur qui est revenu sur ça. Est-ce que vous pensez que cette piste-là pourrait être l'idéal?
Non, vous savez, moi je ne dis pas que ça doit être l'idéal. Parce que vous savez, M. J.F., le peuple congolais n'a pas que le droit, le peuple congolais a aussi le devoir. Si, une fois que là, il y a la transparence de la gestion de ces impôts-là, suite à ce système déclaratif, j'estime que tous les contribuables vont s'exécuter normalement et ça sera une exécution là automatique. Mais si ça pose des problèmes à ce niveau-là, parce que tout ce sens.
Voilà. Vous évoquez, vous revenez encore sur la volonté politique. La volonté politique pour accompagner en tout cas cette culture fiscale qui pourrait peut-être, selon vous, donner des résultats. Là, vous avez évoqué la motivation, le cas des rétrocessions. Vous avez cité ça à des niveaux, donc au niveau de la trésorerie publique et aussi la quote-part qui revient à la DGI, ce que nous appelons par exemple la plus-value ou tant d'autres. Merci beaucoup, Maître Sauville. On va revenir à notre invité qui pourrait peut-être vous éclairer là-dessus. Par rapport à la question et surtout par rapport à la situation qui prévaut actuellement à Lubumbashi. Jean-Louis, vous êtes à Dungu. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Radio.
Vous avez la parole Jean-Louis.
Oui, je suis très content de l'intervention de mon frère sur la confiance. Moi je reviens sur ça parce que même s'il faut sensibiliser la population, c'est-à-dire les contribuables, mais il faudrait aussi rester la confiance à deux niveaux, à mon avis. Et lors des perceptions.
Jean-Louis, on a des petits soucis avec votre ligne. C'est vrai, Dungu, c'est un peu trop loin. Peut-être que ça pourrait s'améliorer si vous changez un tout petit peu votre position.
Oui, ça. J'ai
Parce que là, vous sortez vraiment à s'écouper.
Je vais parler de la confiance dans l'espace à deux niveaux. Nos propos, comme il n'y a pas de manière de percevoir l'actif, il y a beaucoup d'actifs qui se font dans ça. Ça aussi, ça donne un peu.
Donc le mécanisme de perception.
Contribuable.
Oui.
De deux aussi, même il faut qu'on le mette à actif, il faut restaurer la confiance. Il faut qu'on voit. Vous savez bien que. Il y a les civils, mais à l'enclavement. Il faut qu'on voit aussi que les entreprises sont désenclavées au paiement de différents. Donc, c'est pourquoi la direction générale des impôts est souffrir pour rien. Il faut que la politique accompagne ces civils fiscales-là, en amont et en aval. Là,
Merci beaucoup Jean-Louis. Merci. Vous avez posé le problème de mécanisme de perception au niveau de Congo profond, qui occasionne parfois la bagouille avec ou la complicité entre les percepteurs et les contribuables. Vous êtes revenu également sur la question des décentralisations des ETD, donc des entités territoriales décentralisées qui devraient en principe être mises en profit. Pour arriver à booster les recettes, voilà. Donc nous allons revenir également sur cette question pour avoir le point de vue de notre invité par rapport à cette question. Jean-Louis, merci. Loro, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Vous avez la parole, Loro.
Oui, merci pour la parole que vous m'accordez encore cette occasion aujourd'hui. Tout est parti vraiment d'un petit constat. Au sein de la population. Et par exemple, chez nous à Kananga, j'ai constaté que la culture fiscale, le civisme fiscal normalement n'est pas tellement un peu très bien renforcé. Donc, le constat est tel que, vous verrez par exemple, il y a certaines entreprises qui sont habilitées à faire la mobilisation des recettes dans les provinces. Par exemple, chez nous, ici, nous avons la DGRCOC, Forêt Coq, nous avons la DGRAD. Ils sont en train de faire les constats que moi-même j'ai fait sur place en province, est tel qu'il y a aussi des magouilles dans les mécanismes de mobilisation des recettes. Vous voyez les agents qui descendent parfois sur le terrain, ils sont en train de prendre certains résidus qui ne parviennent pas à entrer dans les trésors publics. Ce qui fait que la population se décourage aussi des fois aussi, parfois à suivre et à contribuer comme il faut, avec toute volonté. Donc, deuxièmement aussi, il y a, vous verrez, par exemple, les chefs qui sont vraiment à la tête de certaines entreprises, vous verrez ces gens-là, les gens qu'ils envoient sur terre, qu'ils déplacent sur terrain, ne sont pas tellement bien renforcés, ne sont pas tellement bien formés sur ces mécanismes-là de mobilisation des recherches.
Donc, pour vous, il faut qu'on puisse renforcer, pour moi,
quelques pistes
de solutions.
Mmh. Je voudrais demander que le civisme fiscal soit tellement renforcé au tel point que les acteurs qui sont vraiment opérationnels sur le terrain puissent s'enquérir vraiment de la chose et qu'ils aient vraiment la volonté afin que les peu de recettes qui sont en train de recevoir puissent entrer dans les trésors publics.
Mmh.
Il y a aussi la mobilisation de la population, par exemple. Donc, il faut renforcer quand même les mécanismes afin que la population puisse s'enquérir vraiment de la chose. Que la population ait vraiment la volonté de s'enquérir de la chose, nous contribuer. Ils voient que lorsque nous contribuons, et après, qu'est-ce que ça sera normalement notre part lorsque nous contribuons.
Voilà.
Il y a aussi l'identification des... Il faut identifier, par exemple, les entreprises qui peuvent normalement procurer beaucoup de recettes à des entreprises qui font la mobilisation des ressources. Voilà, moi, pour mon intérêt.
Merci beaucoup, Loro. C'est vrai, il y a Bénédiction Migo de Bukavu qui a dit, premièrement, je prends les propos du grand économiste, mais aussi fiscaliste, Laferré, qui avait dit, trop d'impôts tue l'impôt. C'est très vrai, d'autant plus que cette situation, techniquement, serait due à un phénomène appelé l'anachoresse fiscale. C'est le fait que les contribuables concernés les activités formelles et se donnent aux activités informelles suite à une lourde imposition qui pèse sur eux. Donc, il serait beaucoup plus important que le fisc réajuste son répertoire d'impôts à la situation économique réelle de ses contribuables. Bienvenue, vous êtes à Djougou. Bonjour.
Bonjour, bonjour, Radio Kapi.
Vous avez la parole, bienvenue.
Merci, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Bienvenu Ifekonia. Je suis chef de ressort de la Direction générale des recettes de la province orientale, en Djougou, à Missouri. Et je veux maintenant intervenir par rapport à cette émission de fiscalité en tant que cadre d'une régie financière de la province.
Oui, bienvenue. Avant que vous le poursuivez, est-ce que vous pouvez nous faire une idée très claire au niveau de la province orientale? Est-ce qu'une pareille situation qui prévoit actuellement au Katanga, serait-elle arrivée aussi dans la province orientale une fois le solde débitaire recouvrable, disons très significatif?
S'il vous plaît, vous pouvez respecter, voilà. Je ne voudrais pas bien
voilà. La situation qui est arrivée au Katanga aujourd'hui avec un solde débiteur de plus de 10 milliards de francs congolais, serait-il déjà arrivé au niveau de la province orientale, dans votre direction de recettes?
Bon, je n'ai pas un avis par rapport à ça, et pour donner ou conseiller.
Bon, voilà, alors poursuivez par rapport à la thématique.
Oui, par rapport à la thématique, je vais maintenant intervenir comme je l'ai dit. Comme chercheur aussi à criminalité fiscale et douanière, ça c'est moi comme de la DGRCO. Vous savez, certains intervenants sont débattus par rapport au taux d'impôt, type d'impôt, devoir des citoyens, absence de la fiscalité, comportement des agents percepteurs. Mais vous savez, tout Congolais a le devoir de payer les impôts et taxes. Mais les Congolais ayant cette obligation, ils sont censés de contribuer pour le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo et aussi pour ce qui nous concerne, les régimes financiers. D'abord, c'est donner un peu des conseils et également donner des solutions sur base de la matière fiscale. Et j'ai toujours dit dans toutes mes recherches, ce qui est important dans la fiscalité, et comme solution, c'est semer dans la vie du citoyen la culture fiscale. C'est-à-dire faire une fiscalité de proximité. Rapprocher la
fiscalité. Oui, bienvenue. Ça, c'est bien. Donc, en tout cas, les messages que nous avons reçus, donc, elle parle de la culture fiscale devient actuellement une théorie. On en parle. Mais voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 3 ans qu'on s'est engagé dans ce processus de culture fiscale. Mais, réaliser encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement de débiteurs zéro. Il y a toujours quelque chose. Mais comment réduire sensiblement ces soldes délitaires, pour qu'on n'arrive pas, que cela n'ait pas un impact négatif sur l'assignation.
Non, ça ne peut pas avoir un impact négatif sur les assignations, monsieur le journaliste.
Voilà, il y a contradiction entre l'invité que nous avons sur ce plateau et comment vous appuyez vos propos, vos allégations.
Mes allégations, j'appuie par rapport à ce que j'étais en train de dire. Vous savez, quand le peuple congolais comprenne la fiscalité, l'importance de l'impôt ou d'une taxe, il n'y aura pas de problème. Et pour que cela arrive, comme je l'ai dit, il faut une fiscalité de proximité. Puis faire aussi une fiscalité communicationnelle, faire comprendre au peuple congolais.
Alors, qu'est-ce que
une fiscalité opérationnelle qui fait en sorte que la personne qui taxe ou qui perçoit l'impôt lui-même est la culture fiscale et puis la maîtrise de l'impôt et puis la canalisation de ce qu'il reçoit comme ou perçoit comme recette des impôts et taxes.
Merci beaucoup, bienvenue d'avoir appelé les Jugos 081-890-3315 pour votre intervention en direct.
Merci beaucoup.
Cette histoire vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi, des nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les lanceurs de sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Petite Histoire.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magasin d'échange citoyen. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission avec vous, notre invité, Monsieur Roger Mbambou Munoki, receveur principal à la DGE. Voilà, vous venez de suivre la première série des auditeurs. Comment vous réagissez d'abord?
Bien, merci Monsieur le journaliste, parce que je vois qu'il y a un glissement dans tout ce qui s'est dit. Et nous voulons bien préciser que nous parlons du solde débiteur, et nous voulons apprécier ce solde débiteur et pour quel est l'impact de ce solde débiteur sur le recouvrement des recettes. En fait, vous avez raison de poser la thématique de cette manière, parce que le solde débiteur, c'est l'élément qui permet d'apprécier ce qu'on appelle l'effort de service. En fait, le service a établi des impositions. Il peut y avoir ce qu'on appelle de reste à recouvrer ou de reste à payer, et c'est le recouvrement de ce reste à payer qui permet de voir ce qu'est l'effort de service. Et pour pouvoir conjecturer sur tout ce qui est dit, il faut d'abord analyser la constitution de ce solde débiteur. C'est parce que parfois, il y a beaucoup de théories, mais sans qu'on connaisse qualitativement comment est constitué le solde débiteur. En fait, je peux vous dire qu'il y a une classification du solde débiteur. Il y a ce qu'on appelle le solde débiteur recouvrable, le solde débiteur difficilement recouvrable et le solde débiteur irrecouvrable. Et si on peut mesurer l'effort de service, c'est à partir du solde qu'on appelle le solde recouvrable. Pourquoi il y a cette classification? En fait, vous pouvez avoir un solde irrecouvrable. Pourquoi? Parce que le contribuable, soit qu'il n'existe pas. Il n'existe plus. Ou qu'il a cessé toute activité.
Il y a un auditeur qui a dit, tout ça, c'est en complicité avec certains intercepteurs, qui deviennent, en tout cas, sur quoi, des conseillers et fiscaux de certaines entreprises.
En fait, quand bien même on puisse donner des conseils, mais il y a des mécanismes qu'on appelle les garanties pour pouvoir recouvrer.
Garantie. L'entreprise.
Même si on dissout l'entreprise, si c'est une société, on sait qu'on peut poursuivre le recouvrement des impôts sur ceux qui étaient des associés, n'est-ce pas? Et l'entreprise qu'on dissout a un actif, et le passif il est là, mais l'actif, l'administration dispose d'un privilège général sur les biens, meubles et immeubles du contribuable. Donc le privilège, il est là. Et quand nous parlons, en fait, c'est pour dire qu'il faut catégoriser ce solde débiteur. Donc, je parlais du solde irrecouvrable. Il peut être irrecouvrable parce que
l'entreprise...
Pas seulement la dissolution, mais on a liquidé l'entreprise et qu'on n'a pas des garanties suffisantes. Donc, le passif ne permet pas de pouvoir... Ou l'actif ne permet pas de désintéresser tous les créanciers, quand bien même l'administration fiscale ou le trésor public soit le créancier privilégié. Il y a cet aspect-là. Il y a le solde qu'on appelle difficilement recouvrable. Et il devient difficilement recouvrable, pourquoi ? Parce qu'il peut être en contentieux. Donc, il peut être là, l'entreprise conteste le bien fondé des impositions qui lui sont réclamées. Et il peut contester auprès de l'administration, tout comme il peut contester au niveau juridictionnel. Et quand ça va au niveau juridictionnel, on sait que ça devient effectivement difficilement recouvrable. Et il y a la partie qu'on estime qui est recouvrable, donc celle qui est encore,
aujourd'hui,
ce dont nous parlons, et qui est encore couvert sous les garanties du trésor. En fait, vous savez, dans les deux ans, le receveur des impôts dispose du pouvoir, le pouvoir de saisir les biens du contribuable. Donc, il place ce qu'on appelle soit des avis de tir à tir de tenteur, soit il procède à la saisie mobilière et immobilière pour pouvoir procéder au recouvrement. Donc, vous comprenez, si nous parlons du solde débiteur,
le solde débiteur va au-delà d'une année fiscale.
Il peut aller, le solde débiteur, en fait, c'est une dette qui est dans le compte du contribuable. Et il peut rester longtemps. Pourquoi ? Parce que, un, le contribuable peut se trouver dans une situation de gêne. Le contribuable ne sait pas payer immédiatement. On n'est pas là pour tuer la poule aux œufs d'or. Donc, le contribuable peut solliciter ce qu'on appelle un étalement. Quand bien même la loi renferme cet étalement dans un délai qui ne peut pas dépasser les 6 mois. Donc, le contribuable peut solliciter cet étalement. Et le contribuable peut se retrouver aussi dans une situation telle que, à part le gêne, il conteste lui-même le bien fondé des impositions qui lui sont réclamées. C'est de son droit. Il peut se dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Et tout ça, ça peut retarder. Tout comme il peut considérer que ce qu'on lui a demandé est fondé, mais comme il a la possibilité de solliciter ce qu'on appelle la modération des pénalités, il peut saisir le ministre des Finances pour dire, les impositions sont très élevées et je sollicite une modération.
Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Sur l'impôt, tu l'impôt, l'imposition très élevée ?
Non,
vous ne tombez pas souvent sur ce cas-là.
Le solde débiteur n'est pas seulement constitué du fait que c'est trop d'impôts. Parce que, pourquoi parfois on peut taxer d'office ? Parce qu'ici on parle comme si le civisme fiscal était automatique. Non. Je ne suis pas comme Socrate qui disait que la vertu est science. Il suffit que quelqu'un connaisse ce que c'est le bien pour pouvoir le pratiquer. Non, ce n'est pas ça.
Monsieur Rojo, on va dire, vous, les temps de rouvrir les standards pour récupérer la deuxième série des auditeurs. Il y a Dadi qui est à Nunzou au Katanga, Clovis Amboujima et Simon Tiloulou à Matadi. Dadi, vous êtes à Nunzou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Dadi.
Ok, moi j'aimerais demander à notre invité qu'il puisse d'abord expliquer l'importance de l'impôt parce que nous sommes ici à Nyonzou. Et d'abord j'aimerais dire que le commerce est totalement influencé par des routes, il n'y a même pas de routes. Le commerçant peine pour seulement amener la marchandise. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui souffre comme ça, le gouvernement ne se donne même pas la volonté d'arranger la route maintenant. Il doit payer l'impôt pour faire quoi? Et je me rends encore dire, un pays qui ne songe pas à la population, mais comment est-ce que la population pourra accomplir les devoirs de vis-à-vis de la...
Voilà, c'est un autre débat, Nadi. C'est vrai, nous n'allons pas faire l'amalgame. Hein. Vous nous excuserez parce que c'est un autre débat sur l'impact que peut avoir la perception de ces impôts, disons, dans le cadre de vie immédiat donc des Congolais. Voilà, on va prendre Clovis qui est à Mbujimayi. Clovis, bonjour.
Ah, bonjour, Gilles, et bonjour à tous les amis de la radio 4.
Vous avez la parole, Clovis.
Oui, merci bien l'invité à parler. J'ai bien suivi. En fait, il a parlé, et tout ce qu'il a parlé, c'est de la théorie. Pourquoi plus qu'on trouve que sur le terrain, pas un personnel qualifié qui est même formé pour ces impôts. C'est ça aussi un problème. Tout ce qu'il a
mais Clovis, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Clovis? Vous êtes en Mbujimayi.
Oui.
Hein? Est-ce que vous avez constaté quoi concrètement, Mbujimayi?
Oui, ceux qui sont censés suivre le marché de recouvrement, ceux qui sont censés tout d'abord recouvrer ou donner même les directives pour que les contribuables puissent donner ou puissent payer les impôts, ils ne connaissent pas tout d'abord les mécanismes qui doivent être prises en charge et où les mesures. Vous trouvez que non, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut recouvrer, on ne sait pas tout d'abord sensibiliser le contribuable, comment le montrer le bien fondé de l'impôt. C'est ce que moi je pense qu'on
peut
essayer à former le personnel. Et en même temps, quand on paye l'impôt, on sait que non, l'impôt.
Bon, Clovis, je crois qu'on n'est pas dans la crise interne de la DGI, mais toutefois, on sait que le recrutement, en tout cas pour ce qui concerne les agents qui font le recouvrement ou encore les receveurs, les percepteurs, ce recrutement n'est pas, disons, à la portée de tout le monde. Hein. Je crois qu'il y a quand même du sérieux. Loin est notre intention de pouvoir vraiment se faire avocat du diable. C'est vrai, il y a quand même des conditionnalités qui font que ce n'est pas n'importe qui est retenu. Et ça, ça n'engage que vous, mais peut-être que vous avez des preuves que vous pouvez nous livrer au cours de cette émission, ça pourrait nous aider. Mais néanmoins, nous avons besoin, nous, personnellement, aujourd'hui, avec les cas qui est venu à Lubumbashi, comment faire pour que finalement, qu'on n'aille pas les soldes débitaires zéro, mais qu'on puisse quand même réduire sensiblement, au lieu de 10 milliards, pourquoi pas 1 ou 2 milliards par année, parce que surtout que l'impôt, c'est annuel.
Monsieur le journaliste, merci. Voilà, si on parle de la formation des agents, en fait, je ne sais pas de quel service il parle, mais s'il s'agit de la Direction générale des impôts, je crois qu'on est dans un processus où c'est la qualité, la méritocratie qui est de mise. Et je peux donner comme information que nos agents sont formés chaque année. Donc il y a des formations des vérificateurs polyvalents, il y a des formations des huissiers fiscaux. Donc quand on a un huissier fiscal, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est passé par une formation et qui a réussi à ce test et il a cette qualité-là. Peut-être le problème, c'est au niveau de la population qui ne connaît pas, comme le premier intervenant était là, qui n'a pas une culture fiscale. Et c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que pendant la Deuxième République, il n'y avait pas cette insistance sur l'impôt. Et on l'appelait même contribution, pour dire que c'était vraiment une contribution. Et on percevait l'impôt comme ayant une connotation négative, une connotation un peu coloniale. Et toute la fiscalité était basée sur les grandes entreprises, qui sont la Gécamines et la MIBA. C'est ça qui donnait le gros lot du budget. Donc la Gécamines et la MIBA donnaient jusqu'à 99, ou 4, bon, si j'exagère, hein, pour aller 99% ou peut-être 98%, parce que la fiscalité telle que nous l'avons là ne représentait que 2%. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% du budget, ou ça va même jusqu'à 70% du budget, qui est constitué de la fiscalité. Et c'est une situation qui est tout à fait normale, parce que partout dans le monde, c'est l'impôt qui constitue le premier pourvoyeur du budget.
Donc il n'y a plus l'État-providence, n'existe plus.
Hein. Exactement. Oui. Donc en fait, vous voyez, une population qui a perdu cette culture, et ça doit être difficile de pouvoir dire qu'il faut payer les impôts. Et bien sûr qu'on cherche toujours des raisons pour dire, bon, il y a ceci qu'on lit, mais ce n'est pas ça le problème de la Direction générale des impôts, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la perception de l'impôt, les dépenses, c'est un autre.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui de réduire sensiblement ces soldes débiteurs?
Bien,
quels sont les préalables, quels sont les mécanismes?
En fait, c'est possible de pouvoir réduire. Et on peut...
C'est vrai qu'un solde zéro, il n'existera pas.
En fait, ça n'existe nulle part au monde. Il n'y a pas une situation où on peut dire qu'il y a des contribuables qui n'ont pas de dette. Hein, il y en a toujours.
Il faut renforcer également la capacité des agents, bien les motiver, parce qu'il y a une certaine complicité aussi, il faut quand même les reconnaître.
Je n'insiste pas sur cet aspect qui est purement négatif. Je n'insiste pas sur ce qui est négatif, mais si je vois les mécanismes qui sont mis en place, tous ces mécanismes permettent de pouvoir réduire, parce que nous savons qu'on ne doit pas tuer la poule aux œufs d'or. Comme on a dit, trop d'impôts sur l'impôt, mais on sait quand même que si le contribuable se trouve dans le gène de pouvoir payer l'impôt, il peut venir auprès de l'administration fiscale solliciter soit un étalement, soit solliciter une modération des pénalités. Et si le contribuable estime que ce qu'on lui a imposé n'est pas correct, donc ça c'est le travail du contribuable, donc devant la part du contribuable, il peut venir auprès de l'administration introduire ce qu'on appelle un recours contentieux. Donc, c'est ce qu'on appelle le contentieux fiscal. Et si le contribuable trouve que la réponse de l'administration fiscale ne le satisfait pas, il peut solliciter un réexamen auprès du ministre des Finances. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui peuvent permettre, s'il y a eu des surimpositions, que ces surimpositions puissent tout à fait diminuer. Ça, c'est du côté du contribuable.
Donc, nous retenons que, effectivement, ces soldes débiteurs ont un impact sur l'administration fiscale.
En fait, oui, parce que c'est par le solde débiteur qu'on apprécie l'effort, donc par le recouvrement. Le taux de recouvrement du solde débiteur indique l'effort de service. Et c'est pour cela, dans les critères de performance, et chaque fois, on indique pour dire que le solde débiteur de telle année doit être au niveau zéro à telle période. Ou pour cette année...
Je crois que pour aider les auditeurs, on va prendre encore Simon qui est matin, il est bien là, mais il faut tout de même, parce qu'il y a un auditeur qui a insisté ici, lorsqu'il nous a envoyé son message, en disant qu'effectivement, au niveau de la DGI devait aussi, dans le cadre de la culture fiscale, penser aussi à sensibiliser les politiques, parce que la mauvaise utilisation des recettes fiscales, ça pourrait avoir un impact également en aval sur les contributions. Parce qu'ils se disent, bon voilà, il y a une crise de confiance, et de l'autre côté, on s'en sert très mal. Il ne faudrait pas que la culture fiscale ou les civismes fiscales se limitent qu'à la population, c'est vrai, peut être déterminée à donner, mais en amont, s'il n'y a pas cette volonté politique, ça pourrait avoir un impact sur les assignations, et notamment sur cette confiance qui ne pourrait que avoir un impact négatif.
Bien, monsieur le journaliste, on en parle ainsi, vous savez, le budget, quand il est voté aussi bien en recettes qu'en dépenses. Donc, ça veut dire que l'État détermine déjà ses dépenses pour l'année, n'est-ce pas? Et le peuple qui est là au niveau du
palais
du peuple, c'est lui qui est là, qui vote, il donne son
focus
en votant la loi. Et c'est à ce niveau qu'on peut dire, voilà, comment cela doit être appliqué. Et par la suite, il y a un contrôle de l'exécution du budget. Mmh. Ce sont des mécanismes que la population devrait intégrer. Et le savoir que la population a, n'est-ce pas, le pouvoir a des mécanismes de contrôle.
Je crois qu'il y a un auditeur qui a proposé qu'au niveau de la DGI, qu'on puisse chaque fois organiser des journées portes ouvertes pour donner de tels éléments à la population, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais on va prendre deux auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Simon Tsiloulou qui est à Matadi et Bena qui est dans la ville-province de Kinshasa. Simon Tsiloulou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Simon Tsiloulou, coordinateur provincial adjoint de la nouvelle société civile. Le sujet est vraiment intéressant dans ce sens qu'il nous permet, nous tous, à donner nos points de vue par rapport à ce que nous ressentons ou ce que nous vivons, des travaux que nous faisons sur le terrain par rapport à ça. Mais tout ce qui est arrivé à Lubumbashi, peut-être c'est sorti, mais par ailleurs aussi, ça s'est vu, mais c'est escamoté ou sinon, ça se passe de manière inédite. Mais ce qu'il faut, tout est créé par une crise de confiance entre les contribuables et le gouvernement qui est l'utilisateur. Sinon, distributeur de fonds perçus par la population. Parce que l'impôt, les taxes, c'est la contribution citoyenne qui veut donner les moyens à son gouvernement pour que le gouvernement résolve les problèmes de sa charge qui sont bien dictés par cette loi de finances qui est le budget. Mais qu'est-ce qui crée la crise de confiance? C'est surtout les actes attendus du gouvernement par ce budget, mais il y a une disproportionnalité. La population donne, paye, parce que quand j'achète un... Je paye la taxe, la TVA. Quand j'achète une boîte de tomates, je paye la TVA. Quand j'achète un stylo, je paye. Partout, je paye. Et parfois, cette TVA, nous les payons triplement, quadruplement, parce qu'il faut voir l'import. Si vous voyez la traçabilité de ces marchandises qui quittent là d'où ça vient jusqu'à la consommation, on paye 3, 4, 5 fois la taxe. Mais ce que nous percevons, qu'est-ce que nous en faisons? La traçabilité se pose. Alors, pour qu'il y ait ce genre de problème, il faut que l'État congolais redore la confiance auprès du contribuable, qui, certains d'ailleurs, deviennent complices des agents, là, des agents.
Le couvreur
voilà. Pour percevoir des taxes et d'impôts. Parce qu'ils se disent que je donne l'argent à l'État pour qu'il paye l'enseignant. Mais l'enseignant est pris en charge par moi. Donc ça devient une double taxation. Ça crée déjà une forme de doute aux contribuables qui peut même faire, en sorte qu'il paye moins à l'État pour qu'il garde l'argent en fait de payer à l'enseignant. Beaucoup de choses sont à la charge de l'État, mais l'État n'arrive pas. Et c'est les contribuables qui payent d'une autre façon ces taxes-là. Donc l'État doit forcer les actes attendus de lui par l'argent que les contribuables congolais lui donnent. Ici, par exemple, à Matadi, il y a plusieurs décennies que nous vivons le courant, il y a manque d'eau, manque de courant. On dit non, il n'y a pas de il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de connecteur, il n'y a pas d'argent. Depuis longtemps qu'on a commencé à entendre ça. Alors que la population contribue à chaque consommation des faits. Ils donnent l'argent. Vous voyez tout ça, ça crée une sorte de crise, une sorte de manque de confiance. Et ça développe maintenant d'autres mesures qui sont néfastes par rapport à ce que nous voulons de nos impôts et nos budgets.
Merci beaucoup, Simon Siloulou. Godefroy Chitokong, Alula, qui nous a écrit, depuis la cité de Chimbulu, dit ceci, l'incivisme fiscal est monnaie courante sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la base de ceci, l'inadéquation entre les grandes entreprises et la décentralisation financière. Pour y parvenir, on devrait créer au niveau de l'administration fiscale une cellule chargée des communications et de la sensibilisation entre les contribuables et les agents percepteurs de l'impôt, car ce cadre de dialogue est d'une importance capitale. John Odiane de Boutembo, les mécanismes efficaces pour réduire sensiblement ces manques à gagner. 1. Sensibiliser la population sur les droits de payer la taxe et l'impôt en organisant des conférences sur les bien fondés de ces derniers, car la population congolaise en général n'a pas la notion de culture fiscale. 2. Former les percepteurs sur comment on peut aborder un commerçant et comment orienter les commerçants à verser l'argent dans les comptes publics. 3. Identifier les agents percepteurs par des macarons. 4. Il ne faut pas que l'argent perçu soit au service de quelques personnes. Il faut que les autorités du pays puissent bien gérer parce que c'est un bien public. 5. S'il y a perception des taxes et impôts, il faut que la population voit son impact sur le terrain, par exemple l'électricité, l'eau, la route. Bénin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Bénin. Bénin, vous êtes avec nous?
Oui, bien.
Voilà, vous avez la parole Bénin. Vous êtes à Kinshasa. Bénin, voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Bénin. On prend plutôt Jean à Kalima. Jean, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour, oui, je vous écoute.
Voilà, Jean, vous êtes à Kalima.
Oui.
Voilà, vous avez...
Le manque à gagner ne peut pas disparaître, d'autant plus que les textes deviennent les fautes des commerces de tous les agents. Je m'explique. Si un hôtelier à Kinshasa doit payer $800, les textes de l'État disent que, bon, vous payez... environnement, vous payez culture et art, si vous mettez un petit pancarte, vous payez ceci, cela. Mais un commerçant à Kachungu, le Chabou de Bukavu, une différence, peut-être que nous devons payer 800. Pour ce cas, le type de l'État, il demande, bon, au lieu de 800, donnez-moi 100 dollars. Il prend 100 dollars, il met dans sa poche. Les mêmes services qui sont à Kinshasa, les mêmes agents qui sont à Kinshasa, les mêmes taxes qui sont payées à Kinshasa doivent être payées à Kachungu. Est-ce qu'ils ont les mêmes moyens? Est-ce qu'ils ont la même compréhension des textes? Non. Alors, les agents qui sont à Kinshasa,
voilà. Jacques-Alimant, les textes sont imposables à tous. La fiscalité ne doit pas être à deux vitesses quand même, sinon ça risquerait d'avoir des problèmes, mais je ne sais pas, mais une fiscalité à deux vitesses, ou à double ou à triple vitesse,
oui, ça risquerait d'être... Nous voulons bien, non, est-ce qu'ils ont la même capacité?
À moins qu'on change les textes, Jacques Kalima.
À moins
que vous proposez qu'on puisse réhabiliter les textes, la loi fiscale.
C'est qu'elle parle de Kinshasa.
Voilà.
Même texte.
Non,
ça ne s'explique pas.
Ça ne s'explique pas selon vous. Merci beaucoup, Jacques Alima. Voilà, M. Roger Mbabou Mounoki, faudrait-il revoir la loi fiscale, une fiscalité à double, à triple vitesse? Bon, c'est possible dans ces pays. À Kinshasa, on paierait une taxe peut-être par rapport aux conditions de Kinshasa, et ailleurs, il faut revoir aussi les réalités.
En France, ça existe, hein, quand on parle de l'impôt foncier. Mais je ne voudrais pas ici qu'on puisse
mélanger
la taxe et l'impôt. Donc si on parle ici, on parle
de l'impôt.
Et pas n'importe quel impôt, mais l'impôt du gouvernement central. Parce que c'est là que je suis habilité à pouvoir le dire. En fait, il y a des mécanismes de modulation, si on peut dire. Parce qu'on peut tenir compte, par exemple, pour l'impôt foncier, celui qui est à la Gombe, il ne paye pas le même impôt que celui qui est à Massina ou celui qui est à ma campagne. On en tient quand même compte dans la détermination des taux à pouvoir payer. Mais sinon, d'une manière générale, c'est que c'est tout à fait impersonnel. Il y a des conditions que la loi détermine. Et si vous entrez dans ces conditions, vous avez des obligations auxquelles vous allez vous assujettir. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais relever, parce que quand on parle du paiement des impôts, les gens citent la TVA. Mais la TVA, c'est un impôt indirect. C'est-à-dire que les mécanismes établis pour le paiement de la TVA, ce sont des mécanismes qu'on appelle un peu indolores. C'est-à-dire, on ne sent pas. On a payé la TVA, mais on n'a pas senti. Ce n'est pas
indolore.
C'est indolore. Donc, on ne sent pas qu'on a payé la TVA. Mais il y a des impôts qu'on appelle des impôts directs. Et c'est là où, généralement, partout dans le monde, ça pose problème. Par exemple, vous bénéficiez d'une rémunération. Et sur votre rémunération, si on dit qu'on doit percevoir l'impôt là-dessus, donc on enlève un certain pourcentage de votre rémunération, ça commence à peser. Vous avez réalisé une activité, vous avez un bénéfice. Quand on vous dit qu'il faut payer un certain pourcentage de ce bénéfice à l'État, ça commence à poser un peu de problème. Et tout ce qu'on a donné comme solution, c'est bien, mais je vous ai dit que la culture là n'était pas installée. C'est depuis toujours. On n'a pas cette culture. Et c'est maintenant, on change même l'image de l'administration. Et chez nous, au niveau de la DGI, la gestion se fait par enjeu. Si nous disons par enjeu, c'est-à-dire qu'on a catégorisé les contribuables. Par exemple, moi, je suis au niveau des grandes entreprises. Et les grandes entreprises ont, excusez-moi que je puisse le dire, c'est la vérité, ont une culture beaucoup plus grande que les moyennes. Et les moyennes en ont beaucoup plus que les petites. Et les petites, c'est plus encore que ce qu'on appelle les micro-entreprises. Donc, on gère par enjeu. Et c'est pour cela que vous voyez, la direction des grandes entreprises gère celles qu'on appelle les grandes entreprises. Le CDI, Centre des impôts, gère les moyennes entreprises. Et vous avez les CIS qui gèrent les petites entreprises. Et puis, vous avez encore les micro-entreprises, il y en a qu'on a laissé au niveau...
Oui, mais les mécanismes là tournent très bien dans les grandes villes, mais dans les Congo profonds, nous avons suivi les auditeurs, il y a quand même quelques couacs.
Oui, c'est compréhensible parce qu'il y a l'étendue qu'il faudrait gérer et il faut avoir peut-être le nombre d'agents nécessaires pour aller partout. C'est pour cela qu'on commence au niveau des grands centres pour aller vers les petits centres. Bien sûr qu'on voudrait se rapprocher. Et d'ailleurs...
La fiscalité de proximité.
Oui, exactement. Donc c'est ça, on voudrait se rapprocher de plus en plus. Mais cela exige des moyens aussi bien humains que des moyens financiers ou matériels. comprenez, pour se rapprocher le plus des contribuables. Mais on comprend la difficulté, parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas tenir une comptabilité, parce qu'il ne faut pas se dire que c'est automatique, tous les contribuables n'ont pas la capacité ou les moyens de pouvoir tenir une comptabilité. Et c'est pourquoi ça va aussi avec les obligations comptables. Les obligations fiscales vont de pair avec les opérations. Les...
Ajouter à cela le système de WADA, qui vient s'ajouter.
Bien.
Parfois, ça complique encore d'autres comptables.
Ça ne devrait même pas compliquer, parce que l'OADA, il y a ce qu'on appelle des actes uniformes. Hein. Donc, il y a la loi comptable qui existe à l'OADA, il y a la loi sur les sociétés, sur...
Voilà, en conclusion, plus de peur que de mal, les soldes débiteurs recouvrables dont nous parlons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un déficit dans les sens tel que les communs des mortels le perçoivent aujourd'hui.
C'est
une situation normale.
C'est une situation normale, mais il ne faudrait pas qu'ils prennent une certaine ampleur. Hein. Si ça a une certaine importance, quelque part, vous voyez que même l'effort de service est peut-être mal apprécié. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des soldes débiteurs.
Monsieur Roger Mabou Monoki, vous êtes receveur principal à la DGE, direction générale des grandes entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être très prochainement pour un autre débat.
Merci. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, il fallait finir aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc, nous prenons rendez-vous avec vous pour demain dans un autre débat. Merci à William Ngamba qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Thierry Lamégie et Julie César Bongonda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lou Gembo sous la supervision de Lola Moulamba. À très bientôt.